Alors juste pour revenir un petit peu sur les signes géométriques, vous avez dit qu'ils étaient majoritaires dans les représentations qu'on retrouvait. Alors on peut quand même faire une hypothèse qui me semble quand même assez logique de dire qu'ils portaient un sens, puisqu'il y en avait vraiment énormément. Et il y a quelque chose de frappant. Hein, quand on voit une représentation, j'ai en tête une représentation où on a un biais qui arrive très très vite, c'est que on voyait par exemple une série de signes qui ressemblaient à des P. Et donc instinctivement, on a un biais qui fait que nous, on a appris la lecture et l'écriture. Donc moi, je me pose la question, est-ce que si ces signes qui sont abstraits, qui porteraient un sens, étaient autant répétés, est-ce que ce ne sont pas des premières formes d'écriture? Et auquel cas, est-ce qu'on n'a pas un souci? Parce que on présente souvent la préhistoire comme étant ce qui précède l'invention de l'écriture. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ah, vous avez raison. C'est une excellente question. Juste une petite digression sur les signes. Donc ces motifs géométriques, ils sont éminemment variables dans leur propre typologie, comme nos alphabets, notre alphabet, mais d'autres alphabets. Si vous regardez les idéogrammes ou certains pictogrammes, vous verrez qu'il y en a une infinité et que chacun porte un sens, etc., selon les cultures, selon les régions. Dans l'art préhistorique, la variabilité des signes, des symboles géométriques est immense. Il y a certains signes qui sont universels, qui existent, quand je dis universels, qui existent sur tous les territoires parcourus par les hommes préhistoriques, qui existent dans toutes les grottes ou quasiment dans toutes les grottes, qui n'ont pas de spécificité régionale, qui sont des sortes de signes à tout faire et de signes qui sont presque sans identité, si vous voulez précise. Les points, les alignements de points, les paires de points, les nappes de points, les traits, les bâtonnets, les petits morceaux de traits comme ça isolés, peints, mais sciemment peints. Ce ne sont pas des accidents hein, de réalisation, composés avec parfois les petits points, parfois isolément, des petites séquences de paires, d'alignements, de nappes de ces traits. Il existe aussi des plans élémentaires, des cercles, des carrés, des triangles, etc. Enfin bref, toute une foultitude de ces motifs relativement simples. Et il existe aussi dans cette iconographie non figurative des signes beaucoup plus élaborés typologiquement, beaucoup plus structurés. De fait, des signes qui deviennent beaucoup moins nombreux en quantité et qui ont des dispersions qui ne sont plus des dispersions géographiques aussi vastes que celles des points et des lignes, mais qui ont des dispersions géographiques et culturelles beaucoup plus limitées. Par exemple, en Périgord magdalénien, en Dordogne à l'époque du magdalénien, autour de 16, 15, 16 000 ans, avant le présent, en âge calibré, il existe 5 à 6 grottes ornées qui portent, qui offrent des dispositifs pariétaux, iconographiques, enrichis par un motif que l'on appelle le tectiforme, un motif en forme de toit, de hutte, avec un mât central, avec des pans latéraux, une base, etc. Et ce motif, très relativement simple hein, à voir, mais quand même assez élaboré, il y a une petite variabilité aussi hein, typologique de ce signe, il ne s'observe que dans il n'est connu que dans 5, 4 à 5 grottes du Périgord. Il existe des signes rectangulaires, plus ou moins allongés, avec des remplissages de traits très complexes, des croisillons, etc., dessinés, peints, dans des grottes cantabriques, du Magdalénien également. Il n'existe que là, dans ces grottes-là. Il existe des signes claviformes. Et vous parliez de ces signes en forme de P. Eh bien, ce sont des signes claviformes. Ce sont des signes en forme de massue. C'est ainsi qu'ils ont été qualifiés par Henri Breuil, de claviformes. Ils sont spécifiques, ces signes-là, de certaines régions aussi, notamment de l'Ariège, de grottes de l'Ariège au Magdalénien. Mais on en trouve aussi quelques-uns en Cantabrie et quelques-uns également en Périgord. Alors, on se pose beaucoup de questions à l'égard de ces signes très élaborés, très structurés, qui ont une personnalité. Et plus qu'une personnalité, ce sont des signes qui sont attachés à des chronocultures régionales. Ce sont des signes qui identifient en quelque sorte des chronocultures régionales que nous connaissons, que nous pouvons appréhender aussi par les fouilles. Et là, nous avons un motif qui est un vrai système d'écriture propre à un groupe propre à une chronoculture limitée dans le temps et dans l'espace. Une sorte d'écusson, hein, comme dans l'héraldique. Voilà, le tectiforme, c'est le signe identifiant, reconnaissable, culturellement, c'est le signe ethnique, en quelque sorte, du groupe du magdalénien du Périgord. Le signe claviforme dont vous parliez tout à l'heure, c'est effectivement un signe qui a, attention, une variabilité. Ce n'est pas un P simplement. Hein. Les excroissances ne sont parfois pas toujours dans le même sens. Ça peut être parfois un Q et non plus un P, etc. Parfois, l'excroissance, généralement plutôt dans la partie haute, mais elle peut être aussi dans la partie médiane, il peut arriver qu'elle soit dans la partie basse, etc. Ils sont peints, ils sont gravés, là aussi. Ils ne sont pas toujours associés aux mêmes animaux. Ils sont parfois isolés et puis parfois composés en alignement, etc., tous ces motifs. Mais ils identifient aussi, ils signent aussi une appartenance chronoculturelle à un groupe particulier, plutôt pyrénéen ou plutôt cantabrique, et ainsi de suite. Et ces grands signes sont des identifiants véritablement. Donc ce sont des signatures, en quelque sorte, des signatures culturelles que l'on peut bien cerner territorialement et chronologiquement. Alors, de là à parler d'écriture, c'est toujours un long débat, parce que est-ce que l'art préhistorique est une forme d'écriture ? Oui, c'est une forme d'écriture dans le sens où c'est une écriture par l'image, une écriture par des images qui sont en majorité effectivement des images non figuratives, mais aussi associées à des images figuratives. Le problème, c'est que c'est une écriture non linéarisée. Et évidemment, nous sommes coutumiers des écritures linéaires, qu'elles soient linéaires, horizontales, verticales, de gauche à droite ou de droite à gauche. Associent des éléments constitutifs de l'écriture, c'est-à-dire une lettre, ça ne signifie pas. Ce qui signifie, c'est un groupe de lettres. Peut signifier quelque chose. Et puis, deux groupes de lettres commencent à signifier autre chose. Et trois groupes, etc. Bon. Ou trois groupes de signes, d'icônes particulières, de pictogrammes ou d'idéogrammes particuliers. Dans l'art préhistorique, les choses sont beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qu'on n'a pas une répétitivité de ces associations, de ces groupements, soit de signes, soit de figures géométriques. D'abord, tout cela ne s'inscrit jamais dans la linéarité, mais s'inscrit dans une spatialité très explosée, très dilatée, dans toutes les dimensions de l'espace. Donc cela nous perturbe beaucoup. Et pour essayer de retrouver du sens à tout cela, il nous faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces associations thématiques, etc. C'est-à-dire faire une véritable analyse structurale de ces écritures iconographiques, hein, de ces ensembles iconographiques, et voir si nous avons des associations répétitives de thèmes ou de symboles abstraits ou de thèmes figuratifs. Est-ce qu'il y a des oppositions entre le signe tectiforme et le mammouth, par exemple ? Ou est-ce que le signe claviforme et le cheval sont toujours associés ? Est-ce qu'ils sont situés toujours dans les mêmes espaces de la grotte ou pas ? Ou plutôt à l'entrée, plutôt au rétrécissement, plutôt au fin fond des galeries, plutôt dans les espaces ouverts, etc. etc. Nous devons intégrer à cette analyse de cette écriture, en quelque sorte. Nous devons intégrer des dimensions que l'écriture que nous connaissons depuis 3500 ans, plus, un petit peu plus, depuis que nous sommes coutumiers de cette écriture linéaire, nous sommes obligés pour la préhistoire d'intégrer non seulement cette spatialité explosée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette non-linéarité, mais aussi le lieu même de leur inscription. Et ce lieu de l'inscription, ces supports d'inscription, jouent également un rôle très vraisemblablement dans l'écriture. Et c'est ça qui nous complique singulièrement la tâche. Que aujourd'hui vous écriviez un poème sur une feuille blanche classique d'une ramette de papier ou sur un mur, effectivement le poème va toujours être le même, il va véhiculer le même message, mais il n'aura pas la même portée vraisemblablement. Sur un mur il va devenir public, alors que sur le papier il reste plus intime. Sur le mur il est revendicatif de quelque chose, sur le papier il reste une expression personnelle et tout ça. Donc on voit aussi que là le support peut jouer, mais dans l'art préhistorique il est omniprésent, il est prégnant ce support. Et c'est ça qui rend aussi compliqué notre travail.